Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, il n'y a pas vraiment de thème aux nouvelles vagues, mais peut-être l'affirmation d'une séparation entre ce qui se fait appeler monde numérique et le reste qui ne le serait pas. Une semaine toute numérique pour ne plus dissocier et regarder combien nouvelles technologies, pensées et pratiques du réseau sont un aspect prépondérant de notre monde contemporain. Aujourd'hui, dans le cadre d'une journée spéciale que France Culture consacre aux idées sans frontières, portrait d'une hackeuse civique telle qu'elle se présente, venue spécialement de Taïwan pour la Nuit des idées qui a lieu ce soir au Quai d'Orsay à Paris. Aujourd'hui, France Culture se réjouit de la circulation des idées dans le monde. Portée par cet élan, j'ai tapé le mot « clé K-pop ». Sur les réseaux sociaux Twitter, et me suis retrouvée plongée, j'avoue, dans un monde inconnu de moi où échangent entre autres des fans de musique populaire de Corée du Sud. Parmi les sujets qui ont agité cette plutôt jeune sphère récemment, on trouve la déclaration de Tsai Ing-wen, la nouvelle présidente de la République de Chine, non officielle pour Taïwan, déclaration en faveur de la chanteuse taïwanaise Chu Yu, 16 ans, qui avait posé avec le drapeau taïwanais dans son lit rose avec peluche et fut forcée, quelques jours plus tard, de présenter de piteuses excuses à la Chine en vidéo, ainsi diplomatiquement conseillée par des managers soucieux. Politique, pop musique et réseau, ça circule. Il est 14h, bienvenue à vous dans les Nouvelles Vagues. À sonder et observer les nouvelles vagues, nous savons qu'elles sont le fruit de moments marquants, de moments de bascule. Alors en fin d'émission, chaque jour, nous enregistrons les récits de ces moments-là. Cette semaine, Sonia Bester, mieux connue sous le pseudonyme Madame Lune, avec lequel elle mène son activité de production de spectacles, se prête au jeu. Elle raconte aujourd'hui sa rencontre avec la chanteuse Rosemary Stanley. Il y a quelques années, sa voix et sa présence sur scène la marquent tant que s'ouvre pour elle une série de collaborations dont on a dit on fait un spectacle rêverie musicale que l'on peut voir à partir de ce soir à la Philharmonie de Paris avant une tournée printanière en France. Récit vers 14h50. Troisième moment d'une semaine toute numérique donc pour les nouvelles vagues qui ne choisit pas de thème spécifique comme habituellement mais démontre que le numérique, les nouvelles technologies, les réseaux sont partout. Qu'ils façonnent, structurent, modifient en profondeur nos manières de vivre, de penser et de faire société. Depuis ce matin, France Culture s'interroge sur la circulation mondiale des idées et ceci à la faveur de la Nuit des idées, grande manifestation organisée ce soir au Quai d'Orsay. Sur le plan de la circulation des savoirs, des expressions, le web a ouvert des horizons insoupçonné encore il y a 35 ans. Et 35 ans, c'est à peu près votre âge, Audrey Tang. Vous êtes arrivée de Taïwan en France, spécialement pour cette manifestation. Et vous vous présentez souvent comme une hackeuse civique, anarchiste, conservatrice et retraitée d'une activité de start-up menée depuis votre plus jeune âge. Bonjour, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vos propos sont traduits par la petite voix que l'on entend, traduit de l'anglais. Paloma Goulmo, bonjour Paloma.
Bonjour.
Alors, on parle de circulation des idées dans le monde aujourd'hui. On peut dire que d'une certaine manière, cela prend le relais de la circulation historique des êtres dans le monde. Il se trouve que vous êtes né en Allemagne, que vous avez ensuite déménagé beaucoup, suivant les activités professionnelles de votre père, jusqu'à vous retrouver à Taïwan en 1993, à 12 ans. Est-ce que vous pensez que votre première circulation dans le monde a influencé votre façon de travailler et de penser aujourd'hui?
Well, I think when I was very young, when I was 11,
effectivement, à l'âge
I
de
lived
11
in
ans,
Saarland,
and it's
very close to French borders,
and actually, c'est très proche de la frontière française.
Our schools, we taught German,
dans
and then
école,
French,
ils nous étaient enseignés
English,
le français, l'allemand. L'anglais, mais d'abord l'allemand, ensuite le français et l'anglais. Et c'est vrai que lorsque j'ai voyagé avec mes parents, que nous sommes allés en Luxembourg ou à Paris, nous avons rencontré beaucoup de gens avec des cultures qui se mélangeaient beaucoup. Car le sujet de recherche de mon père portait sur les manifestations sur la place Tiananmen. Également, lié à ça, nous avons rencontré beaucoup d'exilés parce qu'ils avaient manifesté à Pékin. Pékin. Et ils étaient partis de leur pays, ils ne pouvaient plus retourner à Pékin. Et c'était souvent des étudiants dans le doctorat ou qui venaient d'universités de droit, de physique, de sciences sociales. C'était des gens qui étaient encore dans un processus d'apprentissage, comme ils étaient partis étudiants. Et c'est vrai que nous étions très proches de la Lorraine du Sud. Et donc, c'est vrai que nous les rencontrions beaucoup. Et ils nous ont beaucoup enseigné quelles étaient les valeurs européennes. Et ça nous a permis de connaître un peu la façon de rendre peut-être nos vies plus et nos pays plus démocratiques. Nous comprenions comment fonctionnaient ces choses-là, quels étaient les mécanismes. Et cela nous a beaucoup influencé, effectivement, au cours de toutes ces années.
En 1987, il avait réussi à créer une triple liaison, donc entre une école d'art qui était au Japon, la nôtre qui était donc à Paris, et une autre qui était aux États-Unis, je crois me souvenir que c'était à New York, mais j'en suis pas sûr. Et les étudiants japonais nous ont envoyé une image qui a mis un temps mais infini à nous arriver, qui doit être une image qui n'a plus aucun temps de chargement aujourd'hui, mais bon, voilà, dans les tout petits tuyaux de 1987, ça a mis très très longtemps à arriver. Et quand on a reçu ça, on était absolument subjugués quand même de se dire que, voilà, nous avions reçu une image du Japon, nous l'avons modifiée et nous l'avons renvoyée aux États-Unis dans cette autre école. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est vraiment extraordinaire, je me suis dit, j'ai vraiment envie de vivre assez longtemps pour que ça devienne une sorte de norme ou que ce soit le quotidien. Et j'étais persuadé en 1987 que ça allait prendre une vingtaine, voire une trentaine d'années avant d'arriver.
Ça allait prendre une vingtaine ou une trentaine d'années avant d'arriver. En fait, ça a pris un petit peu moins de temps. On entend ici la voix de Philippe de Joncœur, diffusée sur France Culture dans la rubrique Au Singulier, en janvier 2015, qui parle de la première fois où il a vu de ses yeux vu et constaté la connexion de deux ordinateurs. Est-ce que vous vous souvenez, Audrey Tang, de la première fois où vous avez constaté que deux ordinateurs pouvaient se connecter d'un bout à l'autre du monde ?
When I was in,
bien évidemment, Germany, lorsque j'étais en Allemagne,
I already, practiced computer programming.
C'est vrai que je m'étais déjà entraîné à la programmation des ordinateurs. Et c'est vrai qu'à cette époque, la façon dont les ordinateurs pouvaient vraiment communiquer les uns les autres ne se faisait qu'à travers le système universitaire. Et il y avait simplement des... C'était le pionnier d'Internet, ça s'appelait ARPANET. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé moi, à Taïwan, en 93, il y a eu cette révolution de ces ordinateurs, en fait, qu'on avait chez soi, avec les modems, c'est-à-dire que les gens pouvaient vraiment utiliser un système, des boîtes qui changeaient et qui traduisaient, en fait, les différentes vagues, les différents éléments, et transmettre, en fait, les informations d'un ordinateur à un autre. Il y avait donc une possibilité de communiquer entre deux ordinateurs. Et puis, les gens ont lancé des programmes qui s'appellent Bulletin System, et ils le lançaient dans l'ordinateur, et ainsi, un ordinateur pouvait appeler un autre ordinateur et lui laisser un message et le rappeler. En fait, c'était un peu comme un répondeur, vous voyez. Mais en fait, cela apparaissait sur un écran, un grand, comme un, vous savez, un tableau d'écolier, et on pouvait laisser des messages. Et donc, cela a permis de créer une véritable communauté à Taïwan. Mais c'est vrai que pour nous, c'était difficile, ma famille, de pouvoir avoir tout ce système informatique. Nous étions assez limités financièrement et il nous était donc difficile de joindre toute cette communauté qui était à l'extérieur, nous avions rencontré. Et en 94, finalement, les télécoms taïwanaises ont démocratisé l'accès à Internet et c'est vrai qu'il était plus facile de se mettre en contact avec d'autres personnes, avec des ordinateurs. Et c'est vrai que le prix était beaucoup plus bas. Alors il y a trois étages. D'abord, on a trouvé ça dans l'université. Quelques personnes, des chercheurs qui ont accès à cette possibilité de pouvoir communiquer entre les ordinateurs. Puis ensuite, je suis rentrée à la maison et puis j'ai pu me mettre en contact avec mes voisins de palier, mes voisins à Taïwan. Et puis après, au niveau international. Mais ça a été très très rapide parce que c'est passé en une première année pour la première étape, en une année la deuxième étape.
Et vous étiez toute jeune, vous étiez encore enfant, adolescente. Est-ce que vos parents comprenaient ce que vous étiez en train de bricoler et de comprendre, justement, d'une année sur l'autre? Est-ce qu'ils saisissaient la révolution en cours, vos parents?
Yes. Actually, the Beijing protest in
vous savez, lors de la manifestation en 89 à Pékin, a été en fait la première fois qu'on a utilisé une caméra, oui, et que cette caméra a été reliée à une connexion satellite et qu'on a envoyé des fax. Donc les gens pouvaient recevoir en fait une image en couleur. Parce que les gens s'étaient dit, voilà, il fallait que les photos et les films devaient être possibles. Et les gens ne comprenaient pas en fait qu'on pouvait passer également des films par la ligne téléphonique. Et c'était quelque chose qui était déjà actuel, mais c'est vrai que les chercheurs ne l'avaient pas encore publié. Et simplement quelques personnes savaient qu'il existait cette possibilité de transmettre l'image et l'information. Mais comme mes parents travaillaient au sein d'activités journalistiques dans les médias, ils savaient parfaitement qu'il y avait cette révolution qui allait changer et modifier les choses. Et que ça allait modifier la façon dont on faisait du journalisme. Bien évidemment, ils ont compris l'impact que cela pouvait avoir sur les relations entre les gens, mais ils ne se sont pas rendus compte que tout le monde pouvait passer à devenir un journaliste. Ça, ils n'ont pas appréhendé, ils n'ont pas compris, parce que c'est vrai que les gens qui travaillaient dans les médias à cette époque ne se sont pas rendus compte à quel point cela allait être accessible à tout le monde et que tout le monde, à un moment, pouvait devenir un journaliste.
Vous, vous diriez que vous l'aviez compris à ce moment-là ?
Oui.
Le code informatique, c'est la loi aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, code is law, et son architecture est politique. Sous-entendu, elle doit être discutée par les citoyens eux-mêmes. Je crois qu'il est important que cet univers, qui a trop souvent été qualifié de virtuel et qui est terriblement réel dans l'ensemble de nos vies, soit directement sous le contrôle des citoyens et pas sous le contrôle de quelques acteurs techniques qui ne seront pas nécessairement aussi bienveillants qu'ils veulent bien se présenter l'être et qui peuvent, au final, réorienter les phénomènes démocratiques, les opinions publiques, les activités économiques à leur seul bénéfice. Et c'est presque le propos que tenait Eric Schmidt, le patron de Google, dans Foreign Affairs, donc la très célèbre revue diplomatique américaine, en disant, en gros, les États ont échoué, nous, nous sommes efficaces et nous prendrons la main. C'est un propos qui, quand on le lit littéralement, est véritablement inquiétant.
C'est la voix de Bernard Benamou, qui est enseignant-chercheur ici à l'université en droit en France et qui était diffusée dans les Nouvelles Vagues en avril 2014. Audrey Tang, quand Bernard Benamou cite cette fameuse formule « Code is law », ça rappelle aussi pour vous, j'imagine, des souvenirs de l'adolescence et des tout débuts. Comment est-ce que vous apprenez à coder ?
When Lessig, Lawrence Lessig,
lorsque Laurence Lessig, le professeur de droit, est celui qui a créé donc ce mouvement de Commons, et a commencé à dire que nous pouvions utiliser, en fait, enfin libérer le droit d'auteur, hein, que nous pouvions utiliser les réalisations des uns et des autres. Et lorsqu'il a dit que le code est la loi, il ne veut pas dire que c'est le droit tel qu'on l'entend, la loi ou ce qui est maintenu par les juridictions. C'est une loi physique. Oui, c'est comme les lois de la physique, c'est comme les lois de Einstein. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ouvre les possibilités, il ouvre le champ des possibles, et ce que l'on peut faire. Ce n'est pas ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est moral, ce qui est immoral. Pas du tout. C'est la façon dont l'interaction s'ouvre et se permet entre les différents acteurs. Et ce que l'on peut faire en ligne. Et lorsque j'ai appris à programmer à l'âge de 8 ans, c'est vrai que j'ai d'abord étudié un livre de programmation, mais je n'avais pas d'ordinateur sous la main. Donc j'ai utilisé un papier, un crayon, j'ai dessiné un ordinateur sur le papier et j'ai écrit mes programmes. Et j'ai essayé de simuler la réaction de l'ordinateur par rapport au programme que moi, j'écrivais, je composais. Parce qu'évidemment, on peut prévoir l'action d'un ordinateur. Si on comprend comment il fonctionne par la suite, vous n'avez pas besoin d'avoir l'outil. Ça reste très logique au final. Donc, lorsque je me suis entraînée à programmer enfant et à coder, c'était la façon peut-être de jouer avec un instrument logique qui avait ses liens, sa façon de travailler et d'interagir avec vous. C'est un peu comme si je créais une mélodie, vous savez. Si la mélodie, en fait, vous permet de voir l'espace que vous possédez et vous mettre en contact avec d'autres gens, d'autres ordinateurs, d'autres idées, et vous offre ses capacités et vous permet permet de vous lancer dans des actions. On peut aimer ces actions, on peut y souscrire, on peut les suivre, on peut même les appuyer, on peut les annoter. Et tout ça, c'est un espace physique que l'on crée à travers des architectures qui correspondent à des lois, qui sont ce code, qui est comme la gravité et qui définit la façon dont l'architecte va construire ce monde.
Et d'où l'importance, comme le dit Bernard Benamou, de diffuser justement cette idée du code dans toutes les mains des citoyens, c'est-à-dire de faire de tous les citoyens des architectes. À partir de quand vous saisissez l'enjeu démocratique de disposer du savoir technique de coder?
When I was 12, I decided that I
à l'âge de 12 ans, j'ai décidé que je ne voulais plus être scolarisé, enfin ne plus appartenir au système scolaire, donc j'ai quitté le système scolaire à l'âge de 13 ans.
And when I was 14,
et à l'âge de 14 ans,
I discovered the web.
J'ai découvert le web. Mais auparavant, il y a eu deux ans pendant lesquels je me suis plongé dans Internet. Et c'est vrai que j'ai été, à travers cette connaissance d'Internet, peu satisfaite de ce que j'apprenais à l'école. Et donc, j'ai découvert le Gutenberg Project, ce projet qui avait été lancé depuis plus de 20 ans à l'époque. Et c'est un projet qui appartient à de nombreuses personnes qui appartiennent à la société civile et qui mettent des livres, par exemple, qui n'appartiennent plus au domaine, enfin, qui appartiennent au domaine public, qui n'ont plus de droits d'auteur, et qui les donnent à lire. Donc, ce sont des livres qui précèdent la Première Guerre mondiale. Donc, il y a des livres de Freud, de Darwin, qui sont des livres qui ont été publiés autour de ce siècle-là. Il y a de la littérature, il y a de la poésie, il y a même du Shakespeare. Ils retapaient en fait l'ensemble de ces livres et les mettaient sur Internet. Et la consultation était gratuite, libre à tous d'y accéder, même une jeune adolescente comme moi. Et c'est ainsi que je me suis éduquée. Sans ces gens qui étaient tout à fait généreux et qui étaient prêts à partager cette connaissance, il aurait été tout à fait impossible de connaître et de pouvoir m'éduquer hors du système scolaire.
Et alors après, vous avez mis à disposition votre propre connaissance du code informatique à d'autres personnes. De quelle manière?
So, on the internet, by default,
sur that means Internet, par défaut, c'est-à-dire sans rien faire, par exemple, n'importe quel ordinateur se peut mettre en contact avec un autre ordinateur. Et quand quelqu'un a une meilleure idée, il n'est pas nécessaire de demander aux autres la permission. Simplement, on peut rendre les choses possibles et accessibles sur l'ordinateur. Et lorsque l'ordinateur à côté voit ça et veut copier ce protocole que vous avez créé, ils n'ont pas à demander la permission.
So this is what we call
et c'est comme ça, et c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Et c'est la vertu même, et c'est la qualité même d'Internet. Et ce que les gens d'Internet appellent de la variabilité d'Internet, et que c'est une propriété qui ne change pas. Ce n'est pas que moi j'ai fait quelque chose en plus pour partager mon travail, c'est simplement que je n'ai rien fait pour empêcher les gens d'utiliser mon travail. Je me suis simplement dit, voilà, je ne vais pas perdre mon temps à les emmener, à aller devant la justice pour les poursuivre. Voilà, c'est simplement ce que j'ai décidé.
À London Street, were some houses and stores.
Le long de cette rue, il y avait des maisons et des magasins. Des gens vivaient là. Il y avait des commerces et une vie de famille. Tu vois la barrière verte là-bas? À l'intérieur, le terrain sera vendu à des grosses entreprises ou à des hôtels. Ils en feront sans doute des centres financiers ou du business touristique. Mais ça n'aura rien à voir avec les gens qui vivaient là. Ils sont partis et ils n'ont plus rien. Si, ils ont eu un procès en plus. Ici, il y avait des espaces avec de la mémoire et des relations interpersonnelles. Certains résidents étaient ici très vieux. Ça aurait pu être le lieu pour finir leur vie. Le seul lieu de toute leur vie. Je trouve ça trop cruel et déraisonnable. La plupart du temps, on accepte les informations et les images provenant des grands médias. Mais les grands médias sont toujours de mèche avec le gouvernement et les gens puissants. Donc on a encore un long chemin à faire pour tout dire à tout le monde. Et c'est tout ce qu'on essaie de faire. Vous devez vous dire qu'on fait des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Mais en fait, non. Parce que le futur nous appartient. Si on ne change rien, ça deviendra notre futur. C'est le problème.
Juste avant ce morceau de Fan Xiao, on entendait un reportage réalisé par les journalistes de Mediapart sur ce qu'on a appelé la révolution des tournesols à Taïwan. Audrey Tang, comment est-ce que vous expliqueriez cette révolution des tournesols? Comment est-ce que vous nous expliqueriez ce qui s'est passé?
Right, Fan Xiaoxuan's music is pretty nice to hear about.
C'est très agréable cette musique que vous nous avez faite écouter.
This, idea
cette musique décrit l'idée selon laquelle
in love,
que lorsque les gens s'aiment,
just idle there and just do nothing,
ils peuvent juste rester là
like
et ne rien faire.
With their life,
et ils sont juste heureux de cela.
So,
et n'être simplement qu'une seule et même
personne.
Alors, c'est
Taiwan,
un sentiment qui est très populaire à Taïwan. Notamment, vous savez, dans ces dernières années, on essaie de promouvoir cette compréhension, cette idée de, vous savez, de satisfaire le tout ce qui est proche, tout ce qui est artisanal, tout ce qui est en fait cette agriculture locale, et avoir ce contact avec le voisinage, et que c'est une économie que l'on essaie de développer, par exemple.
In 2014,
et donc, pour revenir March, maintenant à Sunflower, vous savez, donc la révolution de tournesol, c'est vrai que le gouvernement taïwanais s'est mis en contact avec le gouvernement chinois et ils ont essayé de mettre en place un accord commercial qui permettait à l'époque des échanges très directs et dans des conditions extrêmement favorables à la Chine. C'est-à-dire que les gens
n'était
pas capable de... Enfin, s'était senti très, très, très attiré par cet accord parce qu'il était capable de gagner beaucoup d'argent, vous savez, puisqu'ils avaient accès à des régions et ils auraient été les seuls acteurs présents dans ces régions, notamment dans les régions taïwanaises, des régions chinoises. Donc, cela a été décidé sans qu'il y ait un débat politique ou diplomatique, ce qui est le cas, par exemple, dans d'autres endroits, par par exemple, Taïwan a signé un accord avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, et cela a provoqué, bien évidemment, des débats au sein du Parlement, qui étaient là pour voir un peu quels étaient l'équilibre et s'il y avait vraiment un véritable échange dans cet accord. Mais le gouvernement, dans le cas de la Chine, avait déclaré que le personne n'avait rien à dire, parce que si on s'en tenait à la Constitution, évidemment, la Chine et Taïwan étaient une même chose. Donc, bien évidemment, la Chine appartient à Taïwan selon la Constitution. Donc, tout sujet qui porte sur la Chine à Taïwan, eh bien, est un sujet national. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un débat au sein du Parlement. Et le gouvernement s'est dit, bon, bah, très bien, il n'est pas possible de débattre sur ce sujet. Et donc, ils ont écarté le sujet, en disant, il ne sera pas possible d'avoir un débat public. Et bien évidemment, c'est impossible. C'était inacceptable pour la majorité des Taïwanais, parce qu'ils voulaient effectivement qu'il y ait un débat avant de signer n'importe quel engagement pour le pays. Le Parlement, après avoir eu plusieurs débats publics où de nombreuses personnes, que ce soit des universitaires, des juristes et des gens qui, au sein du Parlement, avaient commencé à dire, voilà, ils n'avaient pas de leurs préoccupations, le Parlement a dit, non, ce n'est pas notre rôle et nous allons simplement signer cet accord. Et l'accord était signé en 30 secondes. Et ce soir même, le soir même où cet accord a été signé, et les gens sont sortis dans la rue. Et moi, j'ai ouvert l'accès à Internet pour que toute personne qui était donc chez eux pouvait voir toutes les manifestations qui étaient en train d'avoir lieu. Et ce que je ne pouvais pas voir, c'est que tous ces gens qui avaient ouvert en fait leur ordinateur, eh bien, ils avaient dit que les gens n'allaient plus utiliser leur ordinateur, qu'il y allait avoir une révolution, que les gens allaient fermer leur ordinateur et allaient simplement rentrer dans le Parlement et allaient renverser le Parlement. Et bon. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont décidé simplement de rentrer dans le Parlement pour exprimer, mais sans violence. Et nous, comme nous montrions ce qui se passait au sein du Parlement, on a pu voir, et c'était un document très, très bien filmé. Vous voyez, les choses étaient très claires. On voyait bien à quel point les gens étaient contre. Et en fait, on a pu occuper l'espace de façon très pacifique, en négociant avec la police, en montrant à quel point tout se passait pacifiquement. Et c'est vrai que les médias ont essayé de montrer l'inverse, dire que c'était des voyous qui essayaient de rentrer dans le Parlement. Et nous avions en fait toutes les images qui étaient les images réelles, montrant que non, effectivement, c'était des manifestations, c'était des protestations totalement pacifiques. Nous sommes restés dans le Parlement pendant 22 jours, tous ces gens, et nous voulions montrer donc aux parlementaires la façon dont il fallait débattre, dont il fallait parler de cet accord. Et il y avait également des médiateurs, des gens de vrais professionnels, des gens habitués à cela, qui ont montré qu'il pouvait y avoir une démocratie participative dans laquelle existait un vrai débat. Alors ça s'est passé au sein du Parlement, mais également à l'extérieur du Parlement, avec des centaines de gens qui ont participé à ces débats. Et ces débats avaient lieu dans les rues, et ils participaient à ces débats en prenant comme base ce qui était à l'écran, qui étaient les débats à l'intérieur du Parlement, qui étaient sous-titrés, enfin il y avait tout. Donc après 22 jours, la société s'est rendue compte qu'elle pouvait participer et elle a également compris au bout de ces 22 jours quel était l'accord. Le gouvernement et le corps législatif ont donc pris compte des protestations, des éléments négatifs, ils ont décidé de ne pas signer cet accord. Et donc, ils ont passé une loi. Les gens, une fois que le résultat obtenu a été celui qui était le résultat escompté, les gens sont rentrés chez eux. Et au Parlement, il ne manquait personne, il n'y avait pas de blessés, cela avait été complètement pacifique.
Est-ce que quand vous dites « nous », vous avez constitué une sorte d'équipe technique dédiée uniquement à Internet et à cette mise en ligne des débats et des images qui animaient la vie parlementaire pendant ces 22 jours ?
Yes, when I say we,
lorsque je parle de nous,
GovZero, the
GovZero, c'est G-O-V. C'est donc notre équipe, c'est un mouvement, un peu comme le mouvement d'Internet sur lequel toute personne est libre d'entrer. La seule chose qui est nécessaire, c'est de pouvoir laisser le travail en libre accès à toute autre personne. C'est-à-dire que toute personne peut lancer un nouveau projet, c'est-à-dire que la traduction, la logistique, la vidéo, tout ce qui est en streaming peut être réutilisé et à la main de toute personne qui veut s'en servir. Pendant la période d'occupation, nous étions 2-3 personnes qui avions un rôle neutre. Il y avait également des avocats qui s'assuraient effectivement que le droit était respecté dans le processus. Il y avait des médecins qui s'assuraient que la santé était respectée. Et il y avait des médiateurs qui s'assuraient qu'il y avait une véritable communication, un véritable flux. Il s'agissait de protéger les droits non seulement des policiers, mais également des gens qui protestaient, et toute personne qui était sur place, bien évidemment.
Le terme de neutralité, il est d'une certaine manière relativement récent. C'est pas comme ça que les concepteurs de l'Internet l'ont défini. C'est plutôt le résultat naturel de l'architecture qui a été décrite. L'Internet s'est défini comme étant agnostique vis-à-vis de ses usages. Et il est parti un peu de ce point de vue très original, à l'époque en particulier, que un réseau devait se concevoir pour les usages qu'on n'en connaissait pas. Et la grande difficulté quand on réfléchit à cette question de la neutralité, c'est pourquoi diable un truc qui finalement marche pas si mal poserait-il problème ? Alors, il y a quand même un certain nombre de questions qui sont... Il y a des fausses questions, on y reviendra sans doute, mais il y en a un certain nombre qui sont vraies et difficiles. Et elles sont principalement, un tout petit peu techniques, mais elles sont principalement économiques. Et au fond, si on veut essayer de simplifier les choses, pour moi, la question principale, c'est celle du fait que petit à petit, dans son histoire, l'Internet passe d'une situation dans laquelle, en gros, il ne nécessite à peu près pas d'investissement massif dans les infrastructures de réseau, etc. Donc, il ne coûte pas très cher à faire pour les opérateurs, à une situation qui est celle d'aujourd'hui, avec en particulier le très haut débit, la fibre optique, dans lequel, d'un coup, il faut se mettre à investir considérablement, utilisateur par utilisateur. Donc, ça coûte plus cher. Les revenus, pour le moment, sont principalement forfaitaires pour les opérateurs. Et donc, la question, c'est comment ils gagnent l'argent nécessaire pour financer cela.
On entend ici la voix de Daniel Kaplan, qui est directeur de la Fédération Internet Nouvelle Génération. C'était dans l'émission Sciences Publiques du 12 novembre 2010, diffusée sur France Culture, et qui revient sur ce concept central de la neutralité du net, dont vous parliez, Audrey Tang, à l'instant, en évoquant cette occupation parlementaire de 22 jours à Taïwan. Vous disiez, cette petite équipe Gov, qui est tirée du .gov de votre groupement, dans lequel vous pouviez faire entrer n'importe quelle personne voulant mettre en ligne les contenus librement agrégés pendant l'occupation parlementaire, vous dites « nous étions neutres ». Comment est-ce que vous expliquez cette mise à disposition neutre d'outils techniques ?
Certainly. The term internet neutrality.
Lorsque l'on parle de neutralité d'Internet, cela fait référence à trois éléments essentiels qui, à mon avis, s'imbriquent les uns dans les autres. Tout d'abord, ça veut dire que toute personne peut se mettre en contact avec n'importe qui. Il n'y a pas de discrimination, peu importe qui que vous soyez. Deuxièmement, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a un message à transmettre, il est transmis mot par mot, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune altération au moment où on transmet le message, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance faite sur le message, on n'y touche pas. Ensuite, troisième point, si l'on peut utiliser mieux Internet, et qui le rend d'autant meilleur, c'est quelque chose qui est bien, mais ceci ne peut pas empêcher d'autres et nouveaux usages d'Internet. C'est-à-dire que Internet est, par exemple, très bien pour une photographie, on peut le rendre plus rapide, mais si les gens veulent passer à la vidéo ou à la réalité virtuelle, eh bien, on peut continuer à travailler sur la façon d'accélérer la photo, mais on ne peut pas empêcher la réalité virtuelle de se développer. C'est-à-dire que tout se développe, et c'est pour ça que l'on parle de neutralité.
Est-ce que vous utiliseriez les mêmes outils, les mêmes possibilités de mettre en ligne des contenus pour n'importe quelle partie? C'est-à-dire que vous avez décidé de mettre en ligne librement les contenus qui étaient élaborés par les personnes qui occupaient le Parlement à Taïwan. Est-ce que vous auriez fait pareil, par exemple, pour le gouvernement taïwanais ou pour des médias avec lesquels vous n'étiez pas d'accord?
So, when I said the three virtues...
Lorsque j'ai parlé des trois vertus, c'est-à-dire la communication les uns avec les autres, la liberté de ne pas voir ses propos corrigés et utiliser de nouveaux usages, qui est la troisième vertu, tout cela parle d'une action volontaire. Une action de mettre tout ce contenu sur Internet. Internet, c'est une façon de parler les uns avec les autres. Ce n'est pas à nous d'empêcher ou d'obliger des gens à parler. Ce n'est pas un instrument d'interrogation, d'interrogatoire, si vous voulez. Cela empêche dès lors à quelqu'un de ne pas interdire l'accès à Internet. Donc je pense qu'il est aussi faux de forcer quelqu'un à dire quelque chose qu'on ne veut pas connaître sur Internet. L'Internet vous garantit dès lors la possibilité d'avoir un message qui garde son intégrité, mais après maintenir l'intégrité d'une personne sur Internet, c'est un choix moral. Et c'est là qu'on voit si Internet est un média neutre ou pas.
Si on revient à la définition un peu plus légale qui permet de le cibler davantage, ce sera l'intrusion dans un système, son maintien et en phase aboutie, malheureusement, le défaçage ou la récupération de fichiers ou la destruction de l'outil sur lequel on s'est introduit. Donc c'est toute une dialectique et ensuite tout un comportement qui se retrouve sur l'Internet et que développent de plus en plus les hackers au niveau mondial. Une mentalité assez partagée par les pirates et les hackers de manière générale, qui est de démontrer leur propre capacité à démonter la sécurité mise en place par n'importe quel type de serveur, enfin sur n'importe quel type de serveur, par des sociétés ou par des individus. Ensuite, vous avez une deuxième génération de hackers ou de pirates qui veulent profiter de ces espaces d'insécurité pour aller s'installer et utiliser ce qui leur est donné comme espace pour mettre des fichiers illégaux et les proposer au téléchargement sur Internet. Vous avez également, et là c'est beaucoup plus structuré, la possibilité d'avoir des pirates qui, associés les uns et les autres, indépendamment d'un problème de valorisation personnelle, vont agir de manière beaucoup plus concertée ou ciblée pour attaquer, alors là, ce sera plus à préjudice financier.
On entend là la voix de Catherine Chambon qui, dans l'émission Le Bien Commun, a tenté une définition des hackers et de cette pratique de hacking. Souvent, vous êtes présentée et vous vous présentez vous-même, Audrey Tang, comme une hackeuse civique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
The word hacker, when it was first used in the 17th century,
hacker, it means people who il hack a été utilisé dans le système sexuel. En fait, ce sont des tailleurs, des gens qui, comme des bûcherons, vous savez, des bûcherons, et qui avec le bois créent des outils, des outils qui permettront en fait d'être utilisés et qui permettront de créer des meubles en bois. Donc, je crois qu'il faut reprendre cette idée de ces gens qui créent leurs propres outils et qui s'adaptent à l'environnement qui existe et avec ces outils, donc, créent des meubles ou créent quelque chose qui sera possible d'utiliser et qu'ils offrent aux autres. À travers cette métaphore, vous pouvez voir qu'un hacker ou une hackeuse peut être aussi quelque chose de totalement indépendant d'Internet. Vous pouvez être hacker dans n'importe quel type de discipline. Et la façon dont moi je vois les choses, c'est lorsque moi je vois une situation nouvelle et puis des instruments, des outils qui sont anciens ou des idées qui sont maintenant dépassées et qui ne décrivent plus le monde dans lequel on vit, je crois qu'il est nécessaire d'arriver à un moment où on crée ces nouveaux outils qui nous permettront de nous adapter à ce nouveau monde et aussi à y avoir une meilleure vie. Et c'est, je crois, le rôle des hackers. Alors, on peut l'utiliser dans cet esprit en rompant des vieilles lois, des vieilles règles et en mettant des règles qui sont bien meilleures. Ou alors, on peut créer des règles qui sont pires que celles qui existaient auparavant. Et je pense que c'est vrai dans tout type d'innovation. La société comme organe, comme corps général, doit permettre aux gens d'essayer différentes voies pour avancer sans porter préjudice aux autres et faire que la meilleure idée l'emporte. Alors ça, c'est ma façon de voir comment une société peut accepter la tolérance et peut pousser des hackers à avancer. Mais il n'existe pas une chose comme un gouvernement hacker ou comme un anarchiste qui soit un dictateur. C'est l'opposé, enfin, c'est un oxymore, c'est pas possible.
Une autre façon de vous présenter habituellement est de dire de vous que vous êtes retraité. Alors vous n'êtes pas bien vieille, pourquoi est-ce que vous vous dites retraité ?
I did work professionally for 20 years.
Alors, j'ai quand même eu une carrière professionnelle de 20 ans.
And when I say I retired,
et lorsque je dis que je suis retraité, je veux dire que maintenant, je consacre la majorité de mon temps dans le troisième secteur, c'est-à-dire que je travaille avec des gens qui sont des bénévoles, qui décident de travailler avec moi, qui peuvent venir avec me joindre et repartir à n'importe quel moment, mais qui participent vraiment à cette société civile et qui s'intéressent au secteur public, que ce soit le gouvernement et ensuite et les relations avec le service, tous les secteurs privés. Et créer des liens. Et je pense qu'il est très bon que ces secteurs vivent en paix pour que la société avance. Lorsque je dis que je suis retraitée, je suis passée d'un secteur à un autre.
Est-ce que ça signifie que vos 20 années de travail, alors en effet depuis votre plus jeune adolescence jusqu'à très récemment, vous ont procuré suffisamment d'argent pour vivre sans vous soucier de ça aujourd'hui?
It is true that I worked with some Silicon Valley companies.
C'est vrai que je travaillais avec des entreprises de la Silicon Valley, que j'étais un chef d'entreprise. Mais je ne suis pas très riche. Mais j'ai simplement décidé que mes compétences et que mon temps a suffisamment de valeur, donc les gens sont prêts à vivre dans un certain confort en échange du temps que je suis prête à leur consacrer. Alors c'est vrai que je fais du travail de consultante, ce n'est pas que j'ai arrêté du tout au tout. C'est simplement que je travaille sur les choses qui, à mon avis, sont bénéfiques pour la société civile. C'est vrai que je peux partager le fruit de mon labeur avec le public en général. Ce n'est pas que j'ai arrêté la programmation. Non, c'est simplement que je peux choisir vraiment et être très, très, très casse-pied sur le client avec lequel je vais travailler et prendre un client par rapport à un autre. C'est vrai que je suis aussi prête à faire et à offrir mon travail de manière totalement gratuite à n'importe qui, ou à des gens qui m'intéressent. C'est-à-dire que, en gros, si vous avez l'argent, vous payez, et sinon, eh bien, c'est l'échange par un autre type de compétence ou par la bonne volonté ou le bénévolat.
Est-ce que ça veut dire que quand vous dites que vous choisissez vos clients, vous n'offrez pas vos conseils, votre savoir-faire et votre expertise à des gros groupes qui, selon vous, centralisent trop le pouvoir ou iraient contre une situation ou une vision d'Internet que vous portez qui est très démocratique, très ouvert, très hybride? Par exemple, est-ce que vous conseillez Google, est-ce que vous conseillez Amazon, est-ce que vous conseillez Facebook, pour ne citer que?
L'histoire de l'open source,
c'est-à-dire qu'en fait, le code source est ouvert. C'est-à-dire que je ne contrôle pas ceux qui vont utiliser le code que j'ai créé. Par exemple, je peux donner une feuille de calcul et la donner sur Internet et elle peut être très simplement utilisée. C'est vrai que je peux travailler, par exemple, sur un sujet précis, mais je ne peux pas contrôler qui est la personne qui utilisera ce travail que j'offre. Et j'ai toujours été très surprise de me rendre compte que Uber a utilisé un des codes que j'ai créé. Et c'est vrai que cela rend leur travail d'autant plus facile. Et c'est vrai qu'ils l'ont fait puisqu'ils n'ont pas demandé l'autorisation. Et c'est ça, pour moi, ce que représente cette collaboration. Quand je dis que je choisis, ça ne veut pas dire que je ne partage pas ma connaissance avec tous ces gens. C'est simplement, lorsque je travaille sur un problème précis, je ne tiens pas compte de l'intérêt de ces gens. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. C'est-à-dire que ma création est surtout pensée pour la société civile, mais si des gens du secteur privé ou du public aiment mes idées, ben, ils peuvent les utiliser. Ils appartiennent à cette société civile, au final.
Audrey Tang, vous avez deux ordinateurs devant vous et j'imagine que l'un de ces ordinateurs joue en même temps les images de la musique que l'on vient d'entendre. Est-ce que je peux vous laisser nous décrire le projet et la musique qu'on entend là encore un peu?
Yes, we're listening to the
nous
first
écoutons
virtual choir,
le premier chœur virtuel
by Eric
qui est donc dirigé par Eric Whittaker, qui est celui qui a composé cette musique que nous entendons. Alors, ce sont à peu près 185 personnes qui viennent de 12 pays, et ces 185 personnes ont enregistré donc la musique chez eux en utilisant en fait des casques, certains jouant des parties, d'autres parties de la musique, et chacun a donc chanté en voyant donc ce chef d'orchestre dirigeant à travers leur écran, et chacun chantant de façon asynchrone, c'est-à-dire qu'ils ne chantent pas à la même temps, c'est-à-dire qu'ils chantent quand ils veulent, certains, et en même temps certains chantent certaines phrases, et puis ils vont travailler, rentrent chez eux, et puis rechantent d'autres phrases, et finalement ils envoient tout leur chant, tout leur enregistrement sur YouTube. Et puis Eric reprend toutes ces images, ces sons, et donc les superpose, ces différentes voix, les unes au-dessus des autres, et crée un mur que vous pouvez voir à l'écran, de ces gens en fait qui regardent la caméra et qui chantent ensemble, et alors ils chantent en harmonie. Une harmonie parfaite. Et voilà, donc il y a celle de 185 et puis on passe à 2000. Et 4.0, on passe à plus de chansons qui sont d'autant plus, qui ressemblent d'autant plus à cela. Et Eric, dans les dernières pièces qu'il a créées, a demandé s'il pouvait utiliser en fait l'ensemble des différents enregistrements pour réutiliser cette musique et puis à nouveau superposer ce qu'il avait enregistré à d'autres chansons. Et ainsi, les gens, en fait, participent à toute une action sur Internet qui est commune à tous, c'est-à-dire que chacun peut s'inspirer de ce qu'a fait Eric, et c'est quelque chose qui va bien au-delà de chacun des individus qui ont participé à cette œuvre.
Et qui pourrait être évidemment une sorte de grande métaphore de la manière assez idéale dont vous envisagez les collaborations et ces différents mouvements collectifs sur Internet. On parlait tout à l'heure de la première fois où vous avez compris que deux ordinateurs pouvaient entrer en connexion dans les années 90 et de la manière très accélérée avec laquelle vous avez pris part à cet Internet. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui enthousiasmant pour l'avenir?
I have a lot of hope because I was also for this kind of work.
Parce que je suis également comme un chef d'orchestre, pour ce type de travail et ou d'œuvre, par exemple pour le gouvernement ou les secteurs privés. Lorsque Uber est venu à Taïwan, ils n'ont demandé l'autorisation de personne. Et au début, ils prenaient plus cher que les taxis. Et donc les taxis étaient tout à fait d'accord qu'il y ait cette concurrence. Et puis il y avait aussi les Uber X, qui étaient en fait des conducteurs qui n'avaient pas d'assurance, qui n'avaient pas à payer de taxes et qui n'avaient pas non plus à avoir un permis de circulation spécial. Et donc ils ont commencé à offrir des tarifs beaucoup plus bas. Et c'est vrai que les conducteurs de taxi, les chauffeurs, ont commencé à être tellement effrayés. Et c'est vrai qu'ils sont allés manifester devant le ministère des Transports face à cette concurrence qu'ils voyaient déloyale. Ils disaient, voilà, il faut interdire Uber. Mais il n'y avait aucune loi qui pouvait prévenir cela parce que personne n'y avait pensé auparavant. Et les législateurs n'avaient pas pensé que cette situation pouvait se présenter. Et à un moment, le ministère des Transports a dit, voilà, c'est un problème de transport. Et Uber a dit non, nous sommes simplement une plateforme, c'est un problème économique. Et le ministère des Finances ne voit pas les choses de la même façon. Même au sein du gouvernement, il n'existe pas de consensus. On n'arrive pas à qualifier cette situation. L'idée est que, en fait, c'est que nous avons donc créé. Alors, nous avons cette production participative, c'est-à-dire que nous écoutons ce que les gens. On a demandé aux gens de donner leur opinion de ce qu'était Uber, la façon dont ils voyaient Uber. Uber, dont il voyait des taxis, dont il voyait les associations de défense des taxis, comment les passagers envisageaient en fait ce type de transport. Et en utilisant cet espace virtuel, on a pu comprendre et voir quelle était l'opinion générale face à cette situation. Alors, on a pu voir l'opinion, par exemple, de leurs amis sur Facebook, leurs amis sur Twitter. Et donc, l'algorithme vous donne, en fait, une image de la façon, après sur l'écran, donc une image de la façon dont les gens se positionnent, vous voyez, leur opinion par rapport à ce débat, qui est le débat entre Uber et les taxis, à savoir s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Donc là, je vous montre l'image sur l'écran, et vous voyez au final que après 3 semaines de débat sur ce sujet, les gens étaient vraiment en opposition. Il y avait ils étaient déchaînés. Il y en avait qui étaient même, ils étaient déchaînés, ils se disaient des trucs épouvantables. Mais ils étaient dans un espace où, en fait, ils ne pouvaient absolument pas se faire mal les uns aux autres. Et l'idée était d'avancer jusqu'à arriver à un consensus entre les chauffeurs de Uber, mais également les ministères, les différents chauffeurs. Et en utilisant en fait ces différents éléments de débat, ce consensus sur lequel on était arrivé sur Internet, on a pu arriver à une solution. Et cela a été la même chose pour une autre entreprise qui s'appelle Airbnb, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu, comment vous dire, il y a eu un débat public qui a permis d'avancer, et ils ont pu comprendre comment le débat se développait, puisque tout était très transparent à l'écran. Et nous avons aidé, en fait, le gouvernement. Et il n'y a pas eu de boycott, il n'y a pas eu de manifestation. Et à mon avis, la protestation et les manifestations et la façon de débattre sur un sujet devraient ressembler à cela à l'avenir. On entend les opinions de chacun, tout le monde peut participer, il n'y a pas d'agression, et cela reste dans un espace très, très consensuel. Et je crois que les médias sociaux peuvent être vraiment un espace de médiation. Et cela me donne beaucoup d'espoir. Et je vois l'avenir bien plus rose grâce à cela.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Et à cette heure-ci sur France Culture, depuis la saison dernière, nous rencontrons toutes sortes de personnes pour leur demander de nous raconter des moments qui ont marqué leur parcours et ont initié selon eux des nouvelles vagues de pensée, de vie et de création. Cette semaine, nous avons proposé à Sonia Bester, alias Madame Lune, de se prêter au jeu. Elle raconte aujourd'hui sa rencontre avec une chanteuse, Rosemary Stanley.
Je dirais que c'était en 2007. Je suis allée à la Flèche d'Or voir Moriarty. Je savais pas trop ce que j'allais voir, en fait, et j'ai juste découvert une chanteuse qui avait une voix extraordinaire et qui était posée comme ça et qui chantait. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'entendre et de voir aussi, parce que c'est quand même lié, hein, c'est pas juste entendre, c'est tout. Quelqu'un qui se posait là comme une sorte d'ange, en fait. Un ange avec une voix de velours, quoi. Parce que Rose, elle est là. En fait, elle est là. C'est rare. Ces gens, ils ont juste besoin d'être là. Ils sont juste comme ils sont. Et comme ils sont, c'est juste extraordinaire. Ils n'ont rien besoin de faire. Ils sont juste eux. Et ça, c'est rare, ouais. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Mais en fait, après, je crois un an plus tard, ou peut-être 2 ans plus tard, il y a eu ce projet Private Domain, en fait, qui était un disque réalisé par Laurence Equilbet. Et j'ai proposé à Laurence, moi, de produire le spectacle de ce disque, parce que j'avais trouvé que le projet était génial, puisqu'elle revisitait en fait des titres classiques, mais avec des gens de la pop, de l'électro. Et quand on a monté donc le spectacle avec Laurence, on avait besoin d'une chanteuse, en fait. Et donc, on a contacté Rosemary. Et il se trouve que ce que je ne savais pas, en fait, en la contactant, c'est qu'elle chantait très bien le classique aussi. C'est-à-dire qu'elle a vraiment cette possibilité-là. Elle a fait le conservatoire. Enfin, elle a pris des cours de chant classique. Et c'est la première fois, donc, qu'on a travaillé ensemble. Et en fait, on doit beaucoup à ce projet avec Rosemary, parce que d'abord, on s'est connus avec ce projet-là, où elle reprenait notamment le Lamento de la Ninfa de Monteverdi, et elle reprenait aussi Après un rêve de forêt, qu'on reprend du coup dans le spectacle. On a dit on fait un spectacle, parce que c'est absolument magnifique comment elle le chante. Et c'est là où on s'est connus, on a apprécié forcément de travailler ensemble. Et après, il s'est suivi plein d'autres aventures musicale en fait. Et du coup, comme j'adorais comment elle chantait, puis sa présence, tout ça, je dis mais Rose, ce serait peut-être bien qu'on fasse un projet où ce serait toi plus une autre personne, quoi. Ce serait plus simple en fait. Et du coup, je lui ai proposé de faire quelque chose avec une violoncelliste, parce que je me suis dit le violoncelle c'est une autre voix, donc ça pourrait être deux voix, une voix instrumentale et puis une voix, la voix de Rosemary. Et c'est comme ça que existe le duo avec Dom La Nena, Bird on the Wire. Et c'est vrai que ça a été une très très belle aventure. Enfin, c'est encore une belle aventure. Les dernières dates sont en juillet. Ça va se clôturer là. Mais du coup, oui, on a appris plein de choses, forcément, parce que ça existe depuis 3-4 ans maintenant. Et moi, ça m'a permis de découvrir ce que c'était finalement de créer quelque chose comme ça, un objet qui se pose et qui évolue comme ça au fil du temps. C'est pas quelque chose que j'aurais forcément imaginé, quoi. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn anyone who reached out for me.
Birds on Wire, repris ici par Rosemary Stanley et Don La Nena. Ça aurait aussi pu être repris par vous, Audrey Tang, car vous chantiez pendant la chanson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi et merci à Paloma Goulmeau d'avoir traduit vos propos. On peut vous retrouver ce soir en entretien avec Florent Latrive dans le cadre de la Nuit des Idées. Ce sera à minuit au Quai d'Orsay à Paris. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour les réécouter, rendez-vous sur notre tout nouveau, tout beau site franceculture.fr. Vous pourrez y retrouver encore plus facilement vos abonnements au podcast, toutes les émissions, des archives, des séries à réécouter et des cartes Twitter, Facebook pour continuer d'échanger avec l'équipe. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Manuel Couturier. Dans un instant, vous retrouvez la nouvelle émission littéraire de Mathieu Garrigou-Lagrange, la compagnie des auteurs consacrée cette semaine à Virginia Woolf.